Philosophie éthique, Père Philippe, 3 novembre 1982, Rimont.
Bon, nous allons développer le point de vue de la philosophie éthique maintenant. La dernière fois, je vous ai rappelé les diverses modalités de la philosophie éthique en philosophie grecque. C'est intéressant d'essayer de comprendre comment, de fait, cette philosophie éthique a tout de suite pris naissance dans des perspectives assez différentes. Le point de vue de Socrate, le point de vue de Platon, le point de vue d'Aristote, le point de vue des stoïciens, le point de vue des épicuriens, le point de vue de Plotin. Vous avez diverses modalités, ce qui montre tout de suite qu'on est en présence d'un problème. Vous ne pourriez pas du tout avoir ces modalités différentes dans les autres parties de la philosophie. C'est très curieux. C'est propre à la philosophie éthique, tout de suite, d'avoir son point de départ divers. Ça ne veut pas dire que toutes ces diversités sont justes, hein, comprenez bien. Ça montre que le problème de la philosophie éthique a une complexité interne qui fait qu'on a difficilement saisi le vrai point de départ. Si je regarde les modernes, c'est important pour nous. Il faudrait faire un petit tableau analogue pour les modernes. On le fera progressivement, parce que c'est intéressant à faire. Il y avait à Fribourg un étudiant qui a fait une thèse, pas avec moi, mais c'était du temps du Pérouse. Une thèse qui était une petite mémoire de licence qui n'était pas mauvais du tout, où il montrait tout le panorama de l'éthique moderne, pour montrer toutes les diversités de positions sur la philosophie moderne. J'ai cherché tout à l'heure, je ne l'ai pas retrouvé, mais ça ne fait rien, on le retrouvera, pour essayer de voir cette diversité de toutes les positions modernes. Alors prenons-en quelques-unes seulement, puis on complétera. Il y a le point de vue de Kant. Tout le monde connaît la position de Kant. C'est quand même très important de connaître la position de Kant au point de vue moral, l'impératif catégorique. La morale consiste dans le fait que vous êtes capable de vous commander à vous-même et de dire « je dois faire ceci, il faut faire cela », l'impératif catégorique du réveil. Vous dites, il faut que je me lève à telle heure. Ça fait partie du règlement. Je dois me lever à telle heure. Ça, c'est l'impératif catégorique. Et puis quand la cloche sonne, ou quand le réveil sonne à cette heure-là, vous vous trouvez trop fatigué, vous dites, ah non. Et vous renvoyez promener le réveil, et vous continuez de dormir. Votre impératif catégorique n'est pas assez puissant. Alors, pour que l'impératif catégorique soit plus puissant, on le relie à la conscience de Dieu. On dit l'impératif catégorique, c'est la voix de Dieu en vous, en moi. Et c'est cela que Nietzsche ne peut pas supporter de la morale kantienne. Parce qu'on lie la conscience humaine à la conscience divine. Et alors, par le fait même qu'on lie la conscience de l'homme à la conscience divine, mais c'est une espèce d'ontologisme au niveau moral, hein, Kant. C'est très curieux. Celui qui s'oppose à l'ontologisme au niveau intellectuel retombe dans l'ontologisme au niveau moral. Parce qu'au niveau moral, il considère que l'impératif catégorique doit avoir un fondement religieux, doit se fonder dans le point de vue de Dieu. C'est Dieu qui, qui me donne un impératif catégorique, c'est Dieu qui est présent dans mon impératif catégorique. C'est la voix de Dieu qui est présente à ce moment-là. Alors, Nietzsche ne s'oppose violemment à cela. L'opposition de Nietzsche à l'égard de Kant est très intéressante et très instructive à ce point de vue-là. Nietzsche ne peut pas accepter cela, parce qu'à ce moment-là, on supprime la liberté de l'homme. On met l'homme dans un carcan moralisant, religieux. Autrement dit, ce que Nietzsche ne peut pas accepter, c'est que la morale soit essentiellement religieuse. Et il a raison. La morale n'est pas premièrement religieuse. Alors que dans la perspective de Kant, morale et attitude religieuse sont identifiées. Pas de morale sans attitude religieuse. Nietzsche dit non, pas du tout. Il y a une morale qui peut très bien exister uniquement au point de vue humain. Dieu n'existe pas et la morale existe. Il y a une morale, si vous voulez, qui est une morale d'ordre artistique dans cette volonté de domination, la volonté de puissance. Et la volonté de puissance, alors, donne comme le fondement à la morale. Vous voyez que là, il y a deux positions extrêmes qui sont très importantes à saisir, parce que c'est peut-être les deux choses que nous saisissons le mieux pour nous-mêmes. Vous voyez, le point de vue d'une morale religieuse, essentiellement religieuse, et d'une morale qui s'appuie sur la volonté de puissance. Volonté de puissance au point de vue humain. Et donc, qui passe par un point de vue esthétique. C'est par où je domine sur les autres et que je veux dominer sur les autres. Ça, c'est nietzschéen. Vous voyez ? C'est quelque chose de nietzschéen de vouloir dominer sur les autres et de dire que la morale va se fonder là-dessus. Alors, c'est à partir de ce problème-là que tous les modernes se posent aujourd'hui, et tous les professeurs de philosophie morale se posent aujourd'hui, la question du fondement de la morale. Sur quoi se pose le fondement de la morale? Vous voyez, c'est Kant et Nietzsche, à cause des deux. Vous voyez deux fondements diamétralement opposés. Un fondement religieux, donc de l'adoration, et un fondement de domination par rapport aux autres. Il y aurait une troisième position qui serait très intéressante à voir. Vous voyez, je vous rappelle, là, vous ferez vous-même cette petite topique, mais c'est intéressant parce que c'est notre monde d'aujourd'hui, n'est-ce pas ? Alors il faut essayer de comprendre un tout petit peu ce que représente le problème moral dans notre monde d'aujourd'hui. Il y a la troisième position qui est très intéressante, c'est celle de Camus. Camus, lui, dit ouvertement, dans un monde où l'injustice et le mal sont tellement étalés qu'on ne peut plus prétendre sauver les hommes par le point de vue du bien. Il faut découvrir le salut des hommes par le point de vue de la beauté. C'est assez proche de Nietzsche. Mais c'est dit différemment. C'est tout à fait dit différemment, mais il y a chez Camus, très nettement, tout ce point de vue de la révolte, ce point de vue du refus, et essayer de trouver une voie qui ne soit ni le bien ni le mal, qui soit par le point de vue de la beauté. Et pour lui, la beauté est seule salvatrice dans notre monde d'aujourd'hui. Autrement dit, il n'y a plus pour lui d'éthique qu'une esthétique. À ce point de vue-là, c'est proche de Nietzsche. Parce que l'éthique nietzschéenne est une esthétique. On aurait la position de Gabriel Marcel. On pourrait dire que Gabriel Marcel, c'est avant tout une philosophie affective et une philosophie moralisante. C'est la fidélité qui commande tout dans Gabriel Marcel. C'est la fidélité. C'est l'aspect donc affectif de l'amour. Gabriel Marcel, lui, reconnaît une éthique qui est diamétralement opposée à l'esthétique. Diamétralement opposée, qui est au moins totalement distincte de l'esthétique. Il suffit de lire le théâtre de Gabriel Marcel quand vous avez du temps et que vous voulez vous reposer. Lisez le théâtre de Gabriel Marcel. C'est un théâtre bourgeois par excellence qui est extrêmement fatigant. Donc, il n'y a rien qui vous repose plus que ça. Oui, c'est la différence. Faites ça une fois, c'est amusant à faire. Et c'est intéressant parce que ça donne, par rapport au moderne, quelque chose de tout à fait curieux de voir le théâtre de Sartre et le théâtre de Gabriel Marcel. On sent que Sartre est par nature artiste. Et on sent que Gabriel Marcel est par nature moraliste. Tous les deux sortent du protestantisme. C'est très curieux. Tous les deux. Gabriel Marcel s'est converti au catholicisme, mais il est resté moralisant. Sartre est resté dans le protestantisme, mais il en est sorti par l'athéisme. De sortie du protestantisme, qui sont curieuses et qui sont toutes les deux très très différentes. C'est intéressant de voir cela. Alors il y aurait la morale de Gide aussi, parce que Gide est hanté de morale, là encore c'est le protestantisme. Et comme le protestantisme est moralisant, ça c'est un fait, le protestantisme est très moralisant. On a beaucoup moins cet aspect de hantise de la morale dans le point de vue catholique. Si je regarde ces différents auteurs que vous voyez, Kant, Nietzsche, le seul qui est catholique parmi tout cela, c'est Camus. Sa mère est espagnole et catholique. Alors lui, il a subi l'influence de sa mère, ça c'est sûr. Et il avait un aspect qui n'était pas du tout protestant. Les autres, c'est du protestantisme. Et c'est cette hantise de l'aspect moral. La métaphysique a disparu, alors il n'y a plus que l'aspect moral. Et l'anthropologie est une anthropologie moralisante. C'est ça qui domine. Autrement dit, dans notre monde d'aujourd'hui, on pourrait dire que nous avons toujours Kant qui demeure. Ça existe. Il y a toujours ceux qui sont kantiens au point de vue de la morale. Il y a donc morale religieuse. Il y a au contraire la morale artistique chez nous. Une morale affective chez Gabriel Marcel. Et quand je dis morale affective, je veux dire qu'il y a comme quelque chose de fondamental dans le cœur de l'homme qui lui donne le sens de la morale. Et puis, chez Camus, une morale esthétique. Ou plus exactement, la morale ne peut plus exister et se découvrir par elle-même. Il faut le point de vue esthétique qui sauve l'homme. On est, par rapport au problème de la philosophie morale, je crois, dans une situation très analogue à celle de la philosophie première. C'est-à-dire que c'est un grand vide. C'est un grand vide. On ne peut pas dire qu'il y a une philosophie morale dans notre monde d'aujourd'hui. Vous voyez, la philosophie... Vous voyez, il y aurait la position de Kierkegaard, évidemment, qui serait intéressante à regarder. Chez Nietzsche, on ne peut pas dire que c'est la morale qui domine. Pas du tout. Je veux dire, chez Hegel, c'est pas du tout la morale qui domine. Donc, on est en face d'un creux. Alors, il faut nous poser tout de suite le problème. Comment réhabiliter la morale? Comment redécouvrir la morale dans notre monde d'aujourd'hui? Je crois ça capital, d'essayer de découvrir cette exigence profonde du cœur de l'homme. Je pourrais évidemment dire, il y a encore des hommes moraux, et à partir de cela, je vais essayer d'édifier ma morale. Il y a toujours un traditionnaliste qui demeure, c'est bien évident. Et en morale, il y a un traditionnaliste qui demeure. Il y a encore des familles dans lesquelles la morale existe. Mais je crois qu'il faut se placer d'un point de vue plus philosophique et accepter d'une certaine manière cette espèce de crise très radical devant laquelle on se trouve au point de vue philosophie morale, au point de vue philosophie éthique. Il faut donc reprendre l'expérience et l'expérience de l'amour d'amitié. Je crois que seule l'expérience de l'amour d'amitié me permet, dans notre monde d'aujourd'hui, de pouvoir vraiment prendre un langage éthique. Parce que l'amour d'amitié est accepté. On peut dire que même il y a de fait, en raison de cette crise morale, un sens beaucoup plus aigu de l'amour d'amitié. C'est presque toujours comme ça, du reste. Dans les moments de crise, il y a toujours un moment de crise morale, de crise du devoir, il y a toujours une recrudescence de l'amour d'amitié. Alors, il faut essayer de comprendre philosophiquement ce que c'est que le point de vue de l'amour d'amitié. Je crois ça important, parce que c'est par là que je vais découvrir le fondement de la philosophie morale. Il n'est donc ni religieux, ni artistique, c'est la morale qui elle-même me fait découvrir son fondement, qui n'est pas un fondement mais qui est une finalité. C'est l'homme qui, dans la mesure même où il saisit sa finalité, peut justifier une philosophie morale. Tant que l'homme ne saisit pas ce qu'est sa finalité, l'homme est incapable de justifier une morale. Il retombera toujours dans une morale, alors, a priori, la morale de l'impératif catégorique. Alors il reviendra à l'attitude religieuse. Et c'est ça qui me croit être très grand l'intérêt de notre situation actuelle. C'est qu'on est en face d'une crise très radicale. Ça se répercute en théologie morale. Les théologiens morales ne savent plus du tout ce que c'est que la théologie morale aujourd'hui. Ils ne savent plus du tout. Ils se posent la question. Alors, au plan de vue philosophique, c'est très vrai qu'il y a une crise. Et je crois que c'est l'amour d'amitié qui me permet seul de découvrir ce que peut représenter une philosophie morale. Alors, si vous voulez, nous commencerons par regarder l'expérience de l'amour d'amitié. Nous y reviendrons à l'amour d'amitié au terme de notre analyse de philosophie morale. Il faut considérer qu'il y a d'abord divers types d'amitié. L'amitié ne se présente pas du tout, l'amour d'amitié ne se présente pas du tout d'une seule forme. J'allais presque dire, il y a autant de formes d'amour d'amitié que d'amitié. Et c'est très, très normal de dire ça. Donc, si je disais ça, vous voyez, j'arriverais à dire, il y a l'expérience, on peut décrire, mais on ne peut pas analyser. Je ne vais pas jusque-là. Je dis, on doit décrire ce qu'est l'amour d'amitié, on doit en comprendre la diversité, la très grande diversité, mais on doit pouvoir l'analyser. Et c'est en analysant l'amour d'amitié que je veux redécouvrir ce que c'est que l'éthique. voyez bien le développement que nous faisons. Et ça, je crois que c'est très important pour pouvoir aujourd'hui comprendre ce que c'est que la philosophie morale. Alors, très grande diversité de l'amour d'amitié. Faisons appel à nos expériences. Il y a un amour d'amitié dit de complémentarité. On dira que l'amour d'amitié est particulièrement fort quand on est en présence de deux êtres complémentaires. Donc, divers pour être complémentaires. J'essaie de comprendre l'amour de l'homme pour la femme. C'est un amour de complémentarité. Parce que c'est vrai, il y a une très grande diversité entre l'homme et la femme au niveau de l'individu. Ce sont bien deux personnes humaines, mais dont leur individualité est très diverse. Et à ce moment-là, il y a une complémentarité plus forte entre l'homme et la femme que dans un amour où, de fait, l'individuation, l'individualité sera moins diverse. Il y a un amour, au contraire, dans lequel on cherche avant tout, non pas la complémentarité, mais l'unité. L'unité. Je ne dis pas l'égalité, hein, c'est faux de dire l'égalité. L'égalité du côté de la quantité. C'est l'unité qu'on cherche. On cherche avant tout l'unité. C'est ce qui commande l'amitié. Alors là, je dirais, lorsqu'il s'agit de cette recherche de l'unité, vous avez l'amour de l'homme qui aime l'homme, l'amour de la femme qui aime la femme. Il y a une unité plus profonde. Et c'est vrai que c'est ça qui polarise ce type d'amitié. Oui. Je ne parle pas ici de l'homosexualité, ça, c'est autre chose. Il y a quelque chose. Il faut toujours, au point de vue philosophique, regarder le sommet. Et pas regarder le point de vue de la base, si vous voulez. Nous sommes dans l'ordre de l'amour d'amitié. On pourra en parler au terme, mais j'aime mieux regarder d'abord au point de vue philosophique ce qui spécifie ce que tous les anciens ont regardé ça. Le lysis de Platon, c'est l'unité, la complémentarité. Et pour Aristote, c'est l'unité, la complémentarité. Ça, c'est très vrai, il y a ça, deux types particuliers d'amitié. Il y a une amitié dans laquelle la complémentarité est recherchée davantage, il y a un type d'amitié dans lequel l'unité est recherchée davantage. Parce que de fait, il y a une compréhension plus facile, plus immédiate, on se comprend mieux, on se comprend plus vite. Il y a des... C'est vrai, il faut le constater, c'est au point de vue psychologique, au point de vue humain. C'est toujours des deux côtés deux personnes. C'est évident, il n'y a pas d'amitié sans dualité. L'égocentrisme n'est pas d'amitié. Et je ne peux pas baser une philosophie éthique sur l'égocentrisme. Ça. Donc l'égocentrisme, c'est le repliement sur moi-même. C'est de ramener tout à moi-même. Des deux côtés. Et de côté, il y a un véritable amour d'amitié. Mais il y a deux types d'amour d'amitié différents. Alors on pourra discuter indéfiniment laquelle est la plus parfaite. Ça, c'est autre chose. On arrivera au terme peut-être à se poser la question laquelle est la plus parfaite. Mais c'est un fait. Et puis, il y a troisième position. Comme toujours, il y a une troisième position. L'unité, la complémentarité et la proportion. Vous allez dire c'est la complémentarité, la proportion. Pas tout à fait. Pas tout à fait. C'est encore autre chose. C'est un type d'amitié entre des êtres, non seulement la complémentarité, mais un être supérieur et inférieur. Entre le supérieur et l'inférieur, vous voyez ? Il y a quelque chose de différent, ce n'est ni l'unité, ni la complémentarité, mais c'est autre chose. Alors prenez comme exemple le maître et le disciple. le maître d'Égypte. On prendra aussi, c'est Aristote le prend comme exemple, les parents, les enfants. C'est proportionnel, c'est une amitié proportionnelle qui prend. La réciprocité sera dans la proportion. L'inférieur donnera autre chose que ce que donne le supérieur. Parce que du côté justement du don, tout amour d'amitié implique un don. Du côté du don, il y a quelque chose qui ne peut pas se faire ni du côté de l'unité, ni du côté de la complémentarité. Alors ça se fait proportionnellement. Très différent. Et je crois qu'il faut maintenir ces trois types d'amitié distinctes. Trois formes d'amitié différentes. C'est intéressant de voir que tout de suite, l'amitié implique une diversité. On a vu que l'éthique implique tout de suite une diversité. Je dis, bon, il faut tout reprendre par problème de l'amitié. Je vois qu'il y a trois types d'amitié différentes. Alors, nous pouvons encore ajouter d'autres formes d'amitié. Je peux dire que je peux regarder la finalité dans l'amitié. J'aime un autre pour lui-même. J'aime un autre pour la joie qu'il me donne. J'aime un autre pour l'utilité qu'il me donne. Et vous retrouverez là, donc, au point de vue de la finalité, encore une diversité. Et cette diversité peut se retrouver du côté de la proportion, du côté de l'unité, du côté de la complémentarité. C'est très curieux. Comme c'est divers le tissu de l'amitié, qui sont les tissus de deux personnes qui se rencontrent et qui s'aiment. Et qui s'aiment mutuellement. On va essayer maintenant d'étudier qu'est-ce que c'est que l'amitié. Il fallait partir de cette diversité, vous voyez. Il faut constater cette diversité. Il faut constater qu'il y a une très grande diversité. Parce que vous avez un, deux, trois types, et trois. Alors, vous n'avez qu'à multiplier. Non. Et vous voyez donc tout de suite une très grande diversité. Entre le point de vue de l'inégalité, donc la proportion qui vient lutter contre l'inégalité, supérieur et inférieur, maître et disciple, le maître et l'esclave, cela, ou le disciple, il y a une amitié qui peut s'établir. Et cette amitié qui s'établit dans la proportion. Et ces amitiés peuvent avoir trois finalités différentes. J'aime l'autre pour lui-même, j'aime l'autre pour la joie qu'il me procure, et la joie que je lui procure. Joie ou jouissance. J'aime lui mettre joie. Et puis l'utilité. J'aime l'autre parce qu'il est utile, parce qu'il m'apporte de l'utilité. Vous voyez, j'ai besoin d'un serviteur. On va créer une amitié avec lui. J'ai besoin de ce service. Et lui a besoin de mon portefeuille. Alors c'est de cette manière-là qu'on est. Il y a une certaine proportion. On a une proportion. De portefeuille et de service. Mais il peut se créer une amitié. Il y a des amitiés qui s'établissent comme ça. Des vieux serviteurs de famille, ça s'établit de cette manière-là. Il y a quelque chose qui fait que c'est vraiment amical. C'est pas du tout. C'est amical, il y a une relation. C'est tout à fait autre chose quand il y a une unité. C'est tout à fait différent. Alors, l'unité, j'aime l'autre pour lui-même. J'aime l'autre pour la jouissance qu'il me procure. J'aime l'autre pour l'utilité. Alors, pour l'utilité aussi, je peux très bien pour ça, dans l'utilité. Évidemment, c'est moins parfait. Bon, alors, il faut comprendre que cette diversité d'amitié me montre que les liens entre deux personnes, en réalité c'est ça, les liens entre deux personnes dans l'ordre de l'amour sont complexes, étant donné la complexité de la climat. La complexité du vivant fait que nécessairement il y a une complexité très grande dans les relations. Je ne m'arrête pas à cela, mais il fallait le situer. Il fallait situer cela. Il y a un autre problème qu'on pourrait admettre à celui-là, savoir s'il faut avoir beaucoup d'amis ou un seul ami. C'est encore un autre problème. Mais c'est moins important, oui, c'est la question du nombre. C'est la question de la quantité, c'est moins important. Je dis qu'ici, c'est vraiment, à l'intérieur même de l'amour d'amitié, une structure diverse. Alors, si je parle de l'amour d'amitié, évidemment, il faut tout de suite me rendre compte qu'il y a des structures diverses. Je peux maintenant analyser l'amour d'amitié dans ce qu'il a de plus fort, l'unité ou la complémentarité, peu importe, ça n'a pas d'importance ici. Simplement, voir la diversité. Qu'est-ce que c'est qu'un amour d'amitié? Je dis exprès amour d'amitié, mais non pas amitié. Parce que ce n'est pas la camaraderie. Ici, je prends vraiment ce fait que deux êtres humains s'aiment. Deux êtres humains sont capables de s'aimer et de se donner. Parce que tout amour va impliquer un certain don. Deux êtres humains sont capables de s'aimer, de se donner. Sont capables, dans cet amour mutuel, de se découvrir. De se découvrir en profondeur, pas seulement d'une manière extérieure. De se découvrir en profondeur et de se découvrir en profondeur d'une manière telle qu'ils sont capables de pouvoir faire une œuvre commune ensemble. J'aime l'autre pour lui-même et je sais que l'autre m'aime pour moi-même. Donc, dans cet amour d'amitié, il y a cette réciprocité d'amour. Il y a quelque chose de mutuel. J'aime l'autre et l'autre m'aime. Donc, j'aime une personne qui est mon bien. J'aime l'autre et l'autre m'aime. Donc, j'aime une personne qui est mon bien. Et non seulement elle est mon bien, mais ce bien est source d'amour pour moi. Donc il y a la personne qui est mon bien et qui est source d'amour. Et je l'aime non pas parce qu'il est source d'amour pour moi, mais je l'aime parce qu'il est mon bien. Dans un sens, je l'aime pour lui-même. Si je l'aimais parce qu'il était source d'amour pour moi, je ne l'aimerais pas vraiment pour lui-même. Je l'aimerais dans un point de vue jouissant. Je serais heureux de savoir qu'il m'aime. Et alors à ce moment-là, c'est la jouissance. Tandis qu'au contraire, quand j'aime l'autre parce qu'il est mon bien, au-delà de savoir s'il m'aime ou s'il ne m'aime pas, alors à ce moment-là, il y a un véritable amour d'amitié. Il y a l'amour d'amitié dans ce qui est le plus parfait. De l'autre côté, il peut y avoir aussi un amour d'amitié, mais un amour d'amitié inférieur. Parce que j'aime l'autre parce qu'il m'aime. Vous comprenez bien. Alors s'il commence à m'aimer moins, je l'aime moins. Et c'est comme ça qu'au bout d'un certain temps, ça disparaît complètement. Ça, c'est très important pour saisir ce point de départ de l'amour d'amitié. On aime l'autre pour lui-même, parce qu'il est mon bien. Je l'aime comme mon bien, je l'aime pour lui-même. Donc, il est mon bien, il est ma fin. Et les trois éléments, personne, le bien, la fin, et le quatrième, il est source d'amour pour moi. Et il y a un homme, hein, il est source d'amour pour moi. Alors, l'ami aime son ami. C'est une réalité que nous pouvons constater et que, de fait, dans toute notre vie, dans toutes nos vies, il y a des relations d'amitié qui ont une intensité plus ou moins grande, une force plus ou moins grande, mais nous vivons, de fait, dans un tissu de relations amicales. Donc ça, nous pouvons tous le reconnaître. Y aurait-il une morale sans ça? Point d'interrogation. Nous retomberions sur la morale kantienne. Et cette morale kantienne est détruite par Nietzsche. Alors, là, c'est une question sur laquelle nous reviendrons. Hein. Je la pose tout de suite au point de départ, mais je le dis, il faut partir de cette expérience de l'amour d'amitié. Donc, j'aime de l'ami, regarde son ami. C'est une relation réciproque où j'aime l'autre pour lui-même et l'autre m'aime pour moi-même. Et c'est dans cette relation réciproque des liens qui existent que je découvre, que je choisis mon ami. Il y a un choix. Je choisis mon ami. Un choix libre. D'une certaine manière, l'amour que j'ai pour l'ami, l'amour que j'ai pour l'ami s'est imposé à moi indépendamment de ce choix. Mais j'ai pu considérer cet amour, l'accepter et choisir l'autre. Mais c'est très vrai que l'amour, dans ce qu'il a de premier et de fondamental, est antérieur au choix. J'aime l'autre comme mon bien. Et j'ai constaté qu'il était mon bien. Or, très souvent, j'ai constaté qu'il était mon bien parce qu'il m'aimait. Ce n'est pas contradictoire avec ce que j'ai dit tout à l'heure. Mais parce qu'il m'aime, j'ai découvert qu'il était mon bien. Oui, les deux démarches sont très délicates à bien préciser et qui sont, je crois, très intéressantes. Parce qu'il s'agit de comprendre ce que c'est que l'amour d'amitié. C'est la grande expérience au point de départ de deux êtres qui vraiment se choisissent librement. Il y a un choix libre. Un choix libre à l'intérieur de cet amour. Cet amour s'est imposé à moi nécessairement et je l'ai accepté dans son exercice. J'ai accepté cet amour dans son exercice et j'ai choisi l'autre. Vous avez donc une double liberté. La liberté d'exercice, la liberté de choix. À l'intérieur même de l'amour d'amitié. Les deux libertés. J'ai accepté cet amour, et en acceptant cet amour, je choisis l'autre librement. Je le choisis pour être mon ami, pour être celui que j'aime, pour être celui qui est mon bien. Alors, nous allons essayer, à partir de cette expérience, de comprendre que cette expérience me permet de découvrir une connaissance nouvelle d'un type nouveau qui va me permettre de m'approcher plus profondément de l'homme et de découvrir ce que c'est qu'une philosophie morale. L'existence de cette amitié me permet de découvrir une nouvelle connaissance de l'homme. Ça, c'est relativement facile, je crois. Quand j'aime quelqu'un, j'ai l'expérience que je ne regarde plus de l'extérieur, que je le regarde de l'intérieur. J'ai, grâce à l'amour pour cette personne, une possibilité de m'approcher d'elle spirituellement, d'une manière telle que je la connais de l'intérieur. Et c'est pour cela que ce qu'un psychologue pourra me dire de cette personne me blessera toujours. Parce que le psychologue regarde la personne humaine de l'extérieur. Alors que grâce à l'amour d'amitié, je regarde cette personne de l'intérieur. Et j'ai vis-à-vis de cette personne une connaissance intime que personne d'autre n'a. Parce que je l'ai à partir de l'amour que j'ai de cette personne. Je peux la regarder de l'intérieur. Je vois donc que grâce à l'amour d'amitié, j'ai vis-à-vis de l'homme une connaissance nouvelle. L'ami est un autre moi-même. Donc dans l'amour d'amitié, le point de vue de l'autre et du même s'identifie. C'est une chose très étonnante. C'est à l'égard de l'amour d'amitié qu'il y a cette identité entre l'autre et le même. Les deux s'identifient. Les deux sont un. Mais il y a un ordre entre les deux. C'est que j'aime l'autre en premier lieu. Et en aimant l'autre, je me découvre. C'est pas en me découvrant que j'aime l'autre. C'est en aimant l'autre que je me découvre. Donc il y a un ordre. Et c'est peut-être ça, vous voyez, qui serait un des caractères, je dirais, une des preuves les plus absolues que la philosophie de l'autre est la seule vraie philosophie. Parce que si j'ai la philosophie du même pour rejoindre l'autre, je n'explique plus l'amour d'amitié. Donc je n'explique plus une des réalités les plus profondes du cœur de l'homme, la capacité qu'il a d'aimer l'autre. La capacité qu'il a de se déplacer et d'aimer l'autre. Mais si j'ai une philosophie uniquement du même, je ne peux pas, en me connaissant, rejoindre mon ami. Quand je me connais moi-même et que je veux rejoindre l'autre, je projette sur l'autre ma propre connaissance. Et à ce moment-là, je me mets dans une position où je suis incapable de pouvoir l'aimer. Parce que je projette. Et si l'autre ne correspond pas à mes idées, à mon projet, à ce que je porte en moi, alors je ne pourrai plus le tolérer. Il faut recevoir l'autre tel qu'il est lui-même. Donc c'est vraiment l'autre qui est premier. Et c'est l'autre qui me révèle à moi-même ce que je suis. Ça, c'est capital pour le point de vue de l'amour d'amitié. Alors, il y a donc cette expérience d'aimer l'autre et de l'aimer comme mon bien et de l'aimer pour lui-même. C'est à la fois aussi, là encore, hein. J'aime l'autre comme mon bien, c'est ma fin, et je l'aime pour lui-même. Et en l'aimant pour lui-même, je suis son bien. Et je deviens le bien de l'autre. Et il y a donc l'altérité et l'identité dans l'altérité. Cet amour d'amitié me révèle à moi-même ma responsabilité. Je suis responsable de mon ami, dans la mesure même où je l'ai choisi, dans la mesure même où je l'aime. Je suis responsable de lui. Alors, est-ce qu'ici, je ne peux pas dire que je suis en présence justement du problème éthique, du problème moral. Le problème moral, c'est quand je suis responsable de l'autre. C'est à ce moment-là que naît vraiment une obligation dans la responsabilité. Vous voyez que cette obligation ne naît pas de l'impératif catégorique, il ne naît pas du point de vue religieux. Cette obligation et cette responsabilité ne vient pas du désir de dominer. Cette obligation et cette responsabilité provient à l'intérieur même de l'amour de l'autre. À l'intérieur même de l'amour de l'autre, je suis responsable de l'autre. Et parce que je suis responsable de l'autre, il y a donc en moi une nouvelle dimension, non seulement au point de vue connaissance, mais au point de vue activité, qui fait que je dois tenir compte de l'autre. Et je tiens compte de l'autre. Je suis responsable à l'égard de l'autre. Responsabilité à l'égard de l'autre qui montre qu'il y a en moi une capacité de non seulement de saisir l'autre, mais aussi de me mettre à son service. capacité de me mettre à son service, la capacité de responsabilité. Je me mets au service. Je suis capable de pouvoir me relativiser à lui, de me mettre relatif à l'autre. Je suis responsable, je le domine, et en même temps, je me mets à son service. Je retrouve toujours la double relation. Mais dès que je suis responsable de quelqu'un, c'est parce que, de fait, si j'ai une certaine domination sur lui, mais aussi je suis à son service. Je suis capable de me dévouer, je suis capable de me donner, de l'aider dans la mesure où je le peux. Donc responsabilité, capacité de service. Les deux choses vont ensemble. C'est donc, il me semble, qu'on peut le dire, on verra progressivement plus, que cette expérience de l'amour d'amitié me met en présence d'une connaissance nouvelle de l'homme, d'une connaissance nouvelle de l'homme, de l'autre et de moi-même, parce que je suis en présence de l'aspect de l'homme finalisé, de l'homme responsable, de l'homme relatif à un autre. Et par là, je peux essayer de comprendre qu'il y a dans l'homme cette capacité de dépassement. L'homme est capable de se dépasser parce qu'il est capable d'être finalisé. Je vais donc, à partir de là, analyser ce que représente cet amour d'amitié. Et dans cette analyse, je vais redécouvrir les dimensions de la philosophie éthique. Vous voyez, c'est pour partir de l'expérience, pour essayer de comprendre comment le point de vue de l'éthique ne naît pas d'un impératif catégorique, mais il naît à partir d'un amour accepté, d'un amour reconnu librement. Et c'est à partir de cet amour reconnu librement et choisi que se noue le problème de l'éthique, le problème de la responsabilité. Donc le fondement de la morale, c'est la finalité. Sans finalité, il n'y a pas de morale. Il n'y a qu'un devoir impératif qui s'impose à moi. Mais il n'y a pas de morale. Il ne faut pas y en avoir. C'est à l'intérieur même de la finalité que la morale se fonde. Ça, c'est très important à saisir. Si c'est vrai, c'est très important à saisir. Je dis si c'est vrai, je suis convaincu que c'est vrai. Mais je vous le dis pour vous. Parce que, il faut bien, on part d'une hypothèse. Hein. On part d'une expérience, et à partir de cette expérience, je dis, je vais essayer, à partir de cette expérience, de redécouvrir toute la morale. Et je suis obligé de le faire. Aristote avait l'immense avantage, c'est qu'il avait Socrate devant lui. Et Socrate donnait son expérience. Ça avait été loin, puisqu'il avait donné l'expérience de sa mort. Il avait accepté la mort. Et par sa mort, il fondait la morale. Alors, est-ce que je peux prendre l'exemple de Socrate? Oui, je pourrais reprendre, mais c'est lointain. Je pourrais dire, il y a des hommes qui sont morts à la guerre pour défendre leur pays. C'est suffisant, c'est un exemple. Ça montre que la morale existe. Je vois des pères de famille qui se dévouent et qui sont capables de donner leur vie pour élever leurs enfants. Je vois des mères de famille qui sont capables de donner leur vie pour élever leurs enfants, par amour pour leurs enfants. Donc, vous voyez, la morale existe. C'est vrai, la morale existe. Ces faits montrent qu'il y a la morale, qu'il y a quelque chose dans le cœur de l'homme qui dépasse le point de vue du facere, le point de vue de la réalisation d'une œuvre, qu'il y a quelque chose dans le corps de l'homme qui est une autre dimension que la dimension artistique. C'est très vrai. Mais cela nous donne des exemples que la morale existe. Mais qu'est-ce que c'est que la morale? Oui, ces exemples nous montrent que la morale existe, qu'on ne peut pas nier. Et que c'est vrai, dans ma vie, je fais des actes héroïques. Le fait que vous... On entre noviciat, ça montre qu'on fait un acte héroïque, que la morale existe. C'est vrai. Vous êtes un témoin. Mais est-ce que c'est ça qui va vous faire comprendre ce que c'est que la morale? Je ne crois pas. Vous n'avez pas fait ça pour être un exemple de morale. pour les autres, vous l'êtes. Tandis que l'avantage de l'amour d'amitié, c'est que c'est intrinsèque à l'expérience que j'en ai. Et je peux à partir de là saisir comment le point de vue de la philosophie morale se fonde sur cette expérience. C'est un dépassement de cette expérience, c'est bien évident. Je ne demeure pas au niveau de cette expérience, mais à l'intérieur de cette expérience, je peux comprendre qu'il y a quelque chose qui me permet ce dépassement. Quelque chose qui me montre qu'il existe une dimension qui n'est pas la dimension uniquement de l'homme dans le factuel. Oui, c'est ça que... Prenez les deux. Prenez les exemples de, exactement à la suite d'Aristote. Les exemples des Socrates de notre monde d'aujourd'hui. Qui meurent en prenant les signes. Qui font leur devoir jusqu'au bout. Qui meurent sur le champ de bataille. Les exemples des martyrs. Ce sont des exemples. Qui sont le percole. Qui montrent que la morale existe. Alors vous allez me dire, oh, c'est une morale chrétienne. C'est très vrai, c'est une morale chrétienne. Donc, c'est déjà beaucoup plus difficile à préciser. Parce que ce n'est pas au nom de la morale que le père Kolb a fait ça. C'est au nom de l'amour d'un autre. C'est quand même au nom de l'amour d'un autre. Et donc, si c'est au nom de l'amour d'un autre, il y a quand même quelque chose en plus. Mais je peux prendre des exemples purement philosophiques, où je vois que la morale existe. La morale existe, je ne peux pas nier qu'il y a des êtres pour qui la morale est une réalité de leur vie, et qu'ils misent leur vie là-dessus. Mais ceci ne me dit pas qu'est-ce que c'est que la morale. Tandis que si je prends l'exemple de l'amour d'amitié, j'ai intrinsèquement une expérience de quelque chose, d'une réalité, qui me montre comment je suis finalisé, comment je peux atteindre une réalité plus grande que moi, le dépassement. La morale n'existe que dans la vision où il y a un dépassement. Je crois. Je crois qu'il ne peut pas y avoir de morale en dehors de ça. Dans la mesure où il y a un dépassement, c'est-à-dire dans la mesure où je dévoue une finalité. Alors toute finalité est un dépassement. Il n'y a pas de véritable finalité dans l'immanence. Il n'y avait pas de morale dans l'immanence pure. Dans l'immanence pure, il n'y a pas de morale. Je suis au niveau de la vie. C'est toute la différence entre la vie et la morale. La vie demeure dans l'immanence. La morale, elle, veut le dépassement. Elle veut saisir une obligation qui me permet d'aller plus loin que la simple immanence de la vie. Découvrir qu'il y a quelque chose qui me permet d'aller me dépasser. Bon. Une fois que j'ai découvert l'existence de la morale et l'importance de cette expérience de l'amour d'amitié, j'analyse quels sont les différents éléments de cet amour d'amitié. Je mets en premier lieu le point de vue de l'amour. Elle est au moins posée le premier élément. Salut Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni.
Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen.